Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Éphésiens, au chapitre 4, les versets 1 à 16, dans la Nouvelle Édition Genève. Alors, Éphésiens, chapitre 4, les versets 1 à 16, dans la Nouvelle Édition Genève. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, « Étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés en tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons tous, à tous égards, en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour.
Merci, Danny. Tout un passage. Éphésiens, c'est dense, c'est riche. Regardez bien le premier verset pour se préparer à rentrer dans le passage. Paul commence en disant « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » On rentre dans une nouvelle partie de la lettre où Paul va devenir de plus en plus pratique. Et donc, il se prépare à commencer à nous exhorter. C'est ça qu'il fait. Hein? « Je vous exhorte donc. » Il est en train une exhortation, c'est un encouragement vigoureux. Tu sais, qui dit « Let's go, là, c'est le temps de bouger. Je vous exhorte maintenant à marcher. » On rentre dans une partie beaucoup plus pratique de la lettre. Il va commencer avec l'Église. Il va aller dans les différentes expressions de l'Église, la famille à l'intérieur de l'Église, tout ça, nos relations les uns avec les autres. Et on va voir qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Il commence à nous dire que cette identité qu'il nous a communiquée dans Éphésiens 1, 2, 3 va produire ensuite des fruits dans notre vie. Ça va produire quelque chose en nous. Mais je veux juste vous faire remarquer comment est-ce qu'il commence. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. » Paul est en prison quand il écrit sa lettre, qu'il a envoyée à l'église d'Éphèse, lettre aux Éphésiens. Et donc, il est en prison à ce moment-là, mais il a déjà développé tout ça. Il vient juste de le dire au chapitre 2, au chapitre 3, qui est en prison lorsqu'il est en train de le faire. Pourquoi est-ce qu'il recommence encore en disant « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » C'est comme si Paul veut juste nous aider à croire que c'est possible de vivre l'Évangile, de vivre ces fruits-là de l'Esprit dans nos vies. Paul est en train de nous rappeler ses conditions de vie à lui, alors qu'il écrit cette lettre-là, c'est empreint de joie, c'est empreint d'espérance, c'est empreint de foi en Dieu, mais lui est dans une geôle, il est dans une prison, probablement enchaîné entre deux soldats romains, il est dans des conditions d'incarcération misérables, comparé à tout ce que vous pouvez imaginer ici en Occident aujourd'hui. Et donc, il veut juste nous rappeler, « Hey les copains, c'est un prisonnier qui vous écrit. » C'est un prisonnier qui vit dans des conditions très difficiles. Qu'est-ce qui transpire de ma lettre? Est-ce que la joie dans l'Évangile, c'est possible, même dans des conditions difficiles? Est-ce que la foi dans l'Évangile, dans la puissance de Dieu, c'est possible, même dans des conditions difficiles? Et Paul est en train de nous dire, ce n'est pas nos conditions qui déterminent ce qu'on est en train d'expérimenter. C'est premièrement notre identité. Voyez-vous le lien dans le passage? « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de votre vocation. » De la vocation. Une vocation, c'est un appel, de l'appel qui a été placé sur votre vie. Quel est cet appel? Il l'a développé dans Éphésiens 1, 2 et 3. Éphésiens 1, « Nous avons été choisis par le Père avant la fondation du monde, avant même mon existence, j'ai été choisi en Jésus-Christ pour devenir son enfant d'adoption. » Si tu es chrétien, c'est ça ton identité. Tu as été choisi par Dieu. Au chapitre 2, il nous a expliqué comment est-ce que ce choix-là, ce salut-là, cette adoption-là a été rendu possible. C'est pas parce que tu es un beau gars, une belle fille, tu es bon, tu es fin, tu es capable. C'est pas pour ça. C'est en vertu de la grâce, car ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais c'est par la grâce seulement. Tu as été choisi, adopté en vertu de la grâce. Tu es son enfant d'adoption par un geste de grâce de la part de Dieu, pas en vertu de tes performances. Voyez-vous, Paul était en train d'affirmer notre identité. Parce que là, il se prépare à nous parler de service, de se donner, d'être là. Puis notre réflexe à nous comme êtres humains, c'est on est, par défaut, on est des êtres religieux. Lorsqu'on entend parler de service, de se donner, d'être là pour les autres, soit que ça nous apparaît comme un fardeau, soit que ça nous apparaît comme un outil de performance, de valorisation, de je vais aller servir, donc je vaux quelque chose. Ah, Yannick, lui, il est sur l'estrade, et waouh, il est en valeur. C'est pas vraiment comme ça que les Écritures le présentent. Non, non, c'est un serviteur. Mais notre mode de fonctionnement par défaut, on est des êtres religieux dans le sens qu'on veut prouver qu'on est bon, fin, puis capable à Dieu puis aux gens autour de nous. Et donc, avant de nous parler de notre service, des comportements qui vont être bien dans l'Église, de l'attitude qu'on va avoir dans nos relations les uns avec les autres, Paul s'assure de nous dire, regardez là, là je vais vous parler d'action, là vous allez être exhorté à passer à l'action. Là. Être un chrétien, ça change de quoi dans ta manière de vivre? Mais rappelle-toi ton identité. Rappelle-toi qui tu es. Quel est ton appel? Quelle est ta vocation? Je prends le temps d'insister sur ça parce que dans les prochaines semaines, on va être dans la partie pratique de la lettre, où il va y avoir plein d'exhortations à passer à l'action, à marcher d'une manière digne de la vocation, à se comporter de telle ou telle manière. Votre réflexe, ça va être le suivant. Ah oui, je suis bon là-dedans, j'y arrive, je suis capable. Ok, oui, ça, j'arrive à faire ça. Ça, aïe, aïe, c'est tellement lourd. Je suis pas capable de faire ça. Pourquoi c'est lourd comme ça? La vie chrétienne, il faut marcher comme ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Et si vous commencez à penser comme ça, le réflexe que vous devriez tout de suite commencer à développer, c'est de dire, hey, ça vient d'où ça? Ça vient du fait que j'ai oublié mon identité. J'ai oublié qui je suis. J'ai oublié qui je suis. Et si je peux me rappeler qui je suis, un enfant aimé par la grâce de Dieu, peu importe mes performances, seulement par la grâce en Jésus-Christ, choisi, aimé d'avance, réconcilié avec Dieu, réconcilié avec ses frères, à cause de Jésus-Christ. Bien, alors, c'est dans l'Évangile, c'est en lui, en Jésus-Christ, que je vais trouver la grâce de marcher dans les voies de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Je sais que c'est un anglicisme. Est-ce que ça... Does it make sense? Ça se tient, ce que je vous dis? C'est super important. La vie chrétienne vécue sans me rappeler de mon identité en Jésus-Christ, c'est insupportable. Parce qu'on veut ressembler à Christ, on veut être parfait comme Christ, mais on n'est pas parfait. C'est insupportable si tu oublies ton identité en Jésus-Christ. Alors, rappelez-vous de ça au fur et à mesure qu'on va avancer, parce que là, ce que Paul fait, c'est que Paul il dit, bien, maintenant, considérant qui vous êtes, considérant que vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu, qui avaient été choisis avant même de venir au monde, sachant toutes les conneries, les stupidités, les péchés que vous alliez faire, Dieu vous avait choisi en Jésus-Christ, en vertu de l'œuvre de Jésus. Considérant tout cela maintenant, marchez d'une manière digne de cet appel-là dans vos vies. Et la manière que ça va s'exprimer le plus concrètement, c'est dans l'Église locale. On a commencé à le dire dans les dernières semaines, Éphésiens 2, Éphésiens 3 particulièrement, nous parle du fait qu'on est réconcilié avec Dieu, mais pas seulement ça, quoi d'autre? Un seul peuple, juifs, païens, toutes les nations de la terre, un seul peuple réconcilié ensemble pour devenir le peuple de Dieu en Jésus-Christ. Et donc, Paul nous dit la semaine dernière dans Éphésiens 3, une église locale, où il y a une diversité de goûts, d'âge, de culture, d'origine ethnique, de tout ce que vous voulez, des gens disparates. Plus disparates qu'une église, ça ne devrait pas exister. Parce que la beauté de ce qui nous réunit ensemble, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Et lorsque Christ est là, règne au milieu de nous, les anges, les dominations, les êtres célestes sont là, puis ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Il a fallu l'Église pour qu'ils saisissent la grandeur de l'Évangile de Jésus-Christ. Et donc là, Paul va commencer à nous encourager de manière pratique à vivre ça ensemble. Ce matin, on va voir que l'Évangile a produit chaque Église locale. Chaque chrétien qui est dans une Église, des fois dans les Églises, il y a des gens qui sont là, ne sont pas encore chrétiens, ils cherchent, ils regardent, mais ceux qui ont fait un choix, tantôt Carmen va passer par les eaux du baptême, va témoigner publiquement de cette réalité-là dans sa vie. Chaque chrétien dans une Église locale sont là à cause de l'Évangile. C'est donc l'Évangile qui crée l'Église. Dieu se sert du message de l'Évangile pour créer l'Église. Chaque assemblée locale et tous ensemble ensuite, tous ceux qui ont été sauvés, nous nous édifions ensemble, on construit ce corps-là à la gloire de Dieu. Puis je résume tout le passage avec trois mots, d'accord? Vous allez voir, il y a beaucoup de stock, fait que essayez de retenir ces trois mots-là, puis après ça, vous pourrez méditer, discuter avec ça pendant la semaine. Donc, unité, ministère et maturité. On peut résumer tout ce passage-là des versets 1 à 16 avec ces trois mots-là. L'unité, le ministère et la maturité. Éphésiens 4, 1 à 3. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Donc, l'Évangile m'a réconcilié avec Dieu, c'est ce qu'on a vu dans les précédents passages, et nous a réconciliés ensemble. L'Évangile produit l'unité. Et on va le voir à travers tous ces versets-là, il y a cet âme-là qui est là tout le long. On est tous unis ensemble pour, à la fin, être un corps qui s'édifie lui-même, coordonné directement par Jésus-Christ lui-même, notre grand chef d'orchestre. Éphésiens 4, 4 à 6. Et juste pour vous montrer comment Paul veut démontrer que ce thème-là de l'unité, c'est un thème important pour Dieu, il se met comme à aller dans toutes les directions pour dire, oui, l'unité, c'est là en Dieu, c'est là dans la foi. Verset 4 à 6, il y a un seul corps, un seul esprit. Vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Parce qu'on est tous réunis ensemble, par une seule espérance. On est tous réunis ensemble par une seule espérance en Jésus-Christ, un seul peuple. Puis concrètement, Paul nous dit qu'il y a trois attitudes qui vont contribuer très, très, très concrètement à cette unité-là dans l'Église. L'humilité, la douceur, la patience. Éphésiens 4, 2, « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Quelle sorte de culture Dieu veut produire dans l'Église locale qui va contribuer à cette unité-là de manière très concrète dans nos relations? Je peux être un petit peu plus abstrait en disant, ben Jésus doit être au centre, c'est vrai, tout à fait d'accord. Il faut enseigner la Bible, oui, tout à fait, je suis d'accord. Mais concrètement, dans nos attitudes, ça veut dire quoi? Humilité, douceur, patience. Et j'aime bien comment les définitions que Richard Culkin donne. Je vous donne trois définitions, puis on fait juste réfléchir quelques instants là-dessus. Pour que vous puissiez vous-même vous dire, ben, je suis où là-dedans? Moi, personnellement, je suis rendu où dans ma croissance, dans ces attitudes-là? Être humble ne veut pas dire être timide. Ça n'a rien à voir, d'accord? Derrière la timidité, il peut y avoir une montagne d'orgueil incroyable. C'est deux choses qui n'ont rien à voir ensemble. Il ne faut pas se méprendre sur ça. Être humble ne veut pas dire être timide. Être humble, c'est faire preuve d'humilité, c'est retenir son désir d'être le centre d'attention, le centre des soins des gens, de la part des gens, en choisissant de se soumettre aux autres avec respect afin de servir leur intérêt. L'humilité, c'est ça. L'humilité, c'est pas que je regarde les gens puis je dis « Hey, je suis vraiment un moins que rien puis je devrais pas m'ouvrir la bouche puis ferme ta trappe parce que de toute façon, t'es pas à ta place ici. » Non, c'est pas ça. Pas ça du tout. Peut-être que je sais même que j'ai une parole plus sage que quelqu'un d'autre à dire. Peut-être que j'ai l'impression que je pourrais donner plein de directions dans une conversation, puis les gens ont besoin de m'entendre, puis Mais si je suis humble, volontairement, je fais le choix de ne pas me placer au centre de la conversation. De ne pas placer mes intérêts au centre de la conversation. De ne pas chercher l'attention moi premièrement. Volontairement, c'est conscient, c'est un choix que je fais. Je ne veux pas être au centre parce que je veux servir les autres. Je m'humilie en décidant de placer les autres avant moi. C'est ça l'humilité. C'est Christ qui nous l'a enseigné de manière excellente, par excellence. Christ avait toutes les raisons d'être absolument au centre. Mais par humilité, il a décidé de devenir notre serviteur. Alors, c'est concret, c'est pratique. Dans tes conversations, est-ce que c'est Yannick qui est le centre des conversations? Est-ce que tu es au centre des conversations? Est-ce que les conversations servent à te mettre en valeur? Est-ce que tes relations, est-ce que ton ministère, est-ce que ton travail, ton service au travail, est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es humble? La douceur ensuite de ça. Être doux, ce n'est pas être faible. Autrement, Christ ne serait pas doux ou ne serait pas fort. Je veux dire, Jésus-Christ, faible? Pardon? Jésus-Christ, doux. Être doux, ça ne veut pas dire être faible. Cela signifie entrer en relation avec les gens avec douceur plutôt qu'avec rudesse. Il y en a déjà qui prennent des notes pour venir m'exhorter après le message. Avec compassion plutôt qu'avec des exigences, mais en comprenant où est l'autre personne. Avec de doux encouragements plutôt qu'en bousculant les gens. La douceur parle d'entrer en contact avec les gens. Hein. Je ne peux pas manifester de la douceur si je ne vais pas vers les autres. Je pourrais être une roche puis prétendre être doux. Je ne suis pas en relation avec les gens, mais la douceur parle d'être en relation avec les autres. Puis mon mode de relation avec les gens, est-ce que je brusque les gens? Est-ce que je bouscule les gens? Est-ce que j'y vais en ayant de la compassion, avec douceur? Est-ce que quand je pense qu'on devrait aller par là-bas, dans l'intérêt même de cette personne-là, moi je suis humble, je suis en train de te servir, mais je le fais avec rudesse. Au lieu de le faire avec compassion. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est à travailler dans ta vie? La douceur, la patience. Être patient signifie accepter de souffrir des manquements, des fautes des autres. Être lent à reprendre, acceptant que la croissance spirituelle prend du temps et que nous sommes tous en construction. La patience dans le cadre d'une famille, de l'Église, ça demande d'accepter que les autres ne seront pas rendus où je pense qu'ils devraient être rendus. Moi, si j'étais à sa place, je serais tellement plus sage, plus wise, puis tu sais, je serais pas. Moi, je ne ferais pas ça, tu sais. Ouais, peut-être dans ce domaine-là, peut-être un peu plus de sagesse. Mais est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es patient? Être patient, c'est être capable de comprendre qu'on est tous en construction. Alors, voyez, dans l'Église, si, de manière concrète, nous poursuivons constamment ces attitudes-là d'humilité, c'est pas moi qui est au centre de la conversation. Je cherche pas mon intérêt, je suis là pour servir. Je suis là pour servir les gens que je rencontre autour de moi. Si on est doux dans nos rapports les uns avec les autres, oui, ça m'empêche pas de vouloir aider les gens à avancer, mais dans ma manière de les approcher, je vais le faire avec douceur. Il y a une compassion qui est là au lieu de le faire en les bousculant. Je vous l'ai dit, vous voudriez m'exhorter après le message. Avec patience, comprenant qu'on est tous en construction ici. On est tous en construction, puis j'aime comment Dietrich Bonhoeffer le disait souvent, il faut que j'apprenne à remettre les autres à Christ. Il faut que j'apprenne à les remettre à Jésus-Christ. C'est lui qui est l'agent qui les fait grandir, ce n'est pas moi premièrement. Et ça peut me donner énormément, énormément de patience. Alors, quelques questions. Est-ce que tu es une personne humble? Encore une fois, pas timide, hein? Pas timide, c'est pas de ça qu'on parle du tout, du tout. Au contraire, la timidité, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Il peut y avoir beaucoup d'orgueil derrière la timidité. L'orgueil peut générer même la timidité. Est-ce que tu es une personne douce? Est-ce que tu es une personne patiente? Laquelle de ces trois attitudes-là ou vertus-là est la moins forte chez toi, serait la plus à travailler? Puis enfin, comment est-ce qu'on travaille ça? Comment est-ce qu'on travaille ça? C'est, si tu dis, bon, OK, moi, je suis la personne la plus humble de l'Église, mais je dois travailler sur ma douceur. Tu sais? Comment est-ce que je vais travailler sur ma douceur? Comment est-ce qu'on travaille ça? Mais premièrement, on est dans Éphésiens, en me rappelant mon identité, qui je suis. Tu veux travailler sur la douceur, sur la patience, sur l'humilité, un de ces trois-là, reviens à ton identité, Éphésiens 1, 2, 3. Tu as tout ce qu'il faut dans Éphésiens 1, 2, 3 pour être humble, définitivement, pour être doux et patient. Toutes les ressources sont là. C'est pour ça que Paul il dit, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de votre appel, de votre vocation, de votre nouvelle identité. Qu'est-ce qu'on fait ensuite de ça? En confessant. En confessant. En confessant le fait que je ne suis pas rendu là. Puis bon, dans mon cas, moi, la rudesse, oh, tableau, la douceur. Tellement, tellement de fois. Mais pas juste en le confessant à Dieu. Jacques nous dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Pas juste à tes victimes. À tes victimes, bien sûr, va leur confesser que tu as péché. Mais aussi à des frères et sœurs qui peuvent prier pour toi dans ton petit groupe, dans un groupe de formation de disciples, à des frères et sœurs de confiance, je vais aller confesser. Troisièmement, en regardant au modèle Christ. Toujours, je dois revenir à ce modèle-là. C'est lui qui va m'inspirer. Et puis quatrièmement, enfin, en pratiquant. En pratiquant. On voudrait croire que la sanctification, la transformation, pour qu'on devienne à l'image de Christ, ça se fait comme des il faut que je comprenne de quoi. Je vais comprendre quelque chose, puis bam, je vais être transformé. Oui, des fois, c'est ça. C'est un peu ça que Paul est en train de prier à la fin d'Éphésiens 3, lorsqu'il dit, il prie pour que nos cœurs réalisent vraiment toute la grandeur de l'Évangile. Mais souvent aussi, cette transformation-là est produite par 1 million de repentances. Et donc, si tu es tanné de demander pardon parce que tu es quelqu'un de brusque, ou tu es tanné de réaliser que tu es toujours en train de te mettre au centre, repens-toi pour la 2 millionième fois. Parce que tranquillement, le simple fait que dans ton cœur, tu vois ce péché-là, l'Esprit travaille dans ton cœur et est en train de te transformer. Et en te repentant encore une fois, en demandant pardon, s'il y a des victimes, en demandant pardon au Seigneur premièrement, en pratiquant, tu vas grandir dans ce domaine-là. Donc, premièrement, l'unité à travers ces trois attitudes-là, que sont l'humilité, la douceur, la patience. Deuxièmement, le ministère, Éphésiens 4, 7. Comment est-ce que l'Église est construite à travers le ministère? Regardez bien le verset 7. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Paul vient de parler de l'unité. Il dit qu'on est ensemble. Puis là, il y a un « mais » qui apparaît dans le texte. Il y a un « mais ». Il y a comme une... Oh, OK, mais il y a quelque chose. Il y a un autre côté. Il y a un autre penchant à ce pendule-là. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Là, tout d'un coup, Paul introduit la diversité. Il veut qu'on marche dans l'unité, mais à chacun de nous, une mesure de grâce a été donnée par Christ. Et ici, la grâce dont il est question, ce n'est pas la grâce du salut. Éphésiens 1, c'est « on a tous été bénis ». On a tous été bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. On est tous sauvés. Ce n'est pas de ça dont il est question. La suite le démontre très bien. C'est des dons qu'il nous donne pour servir dans l'Église. Mais Paul introduit ici l'idée qu'il y a de la diversité, que cette diversité-là est intentionnelle, elle vient de la part de Dieu, et qu'on a chacun un rôle à jouer dans l'édification, dans la croissance de l'Église. Regardez le verset 16. « C'est de lui, en parlant de Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance, c'est lui qui coordonne tout ça, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. » Chacun une mesure de grâce, chacun une force différente, n'est-ce pas? Puis chacun selon sa force. La force que Dieu t'a donnée, les dons que Dieu t'a donnés, les aptitudes que Dieu t'a données, chacun contribue à la croissance du corps. Chaque personne dans cette pièce qui connaisse personnellement Jésus-Christ a été donnée à l'Église pour l'édification du corps. Je vous ai mentionné, mardi, on est allé écouter un concert, Esther et moi. Puis Esther, c'est une musicienne classique, fait qu'elle pouvait apprécier ça. C'était pas un orchestre symphonique, mais c'est un orchestre de chambre, mais on était presque rendu à l'orchestre symphonique. Je sais pas combien il y avait de choristes, sûrement une centaine de choristes. C'était génial, c'était vraiment grandiose, c'était superbe. Puis dans cet orchestre-là, il y a toutes sortes d'instruments, évidemment. Puis là d'où on était placé, on voyait les corps. Puis les corps, c'est un drôle d'instrument. Je sais pas si vous figurez c'est quoi, c'est comme une espèce de trompette qui aurait mal viré. C'est comme bizarre, ils la tiennent comme ça, puis c'est tout twisté, puis ça finit par là-bas, puis ils mettent une main dedans en plus pour jouer, c'est comme, je comprends pas, mais en tout cas, il y avait deux corps qui étaient là, tu sais, puis dans cette pièce-là, les corps jouaient pas constamment, fait que je les regardais parce que c'était vraiment une pièce très, 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 très longue. Alors au début, ils étaient assis, mes amis, là, c'était droit comme ça avec leur corps, de temps en temps, ils vidaient un petit peu l'eau qu'il y avait là-dedans, ils attendaient leur partition, trois notes, restaient là. après 2 heures. Puis à la fin, la fille était popée, mais le gars à côté, là, honnêtement, il était vraiment évaché, tu sais. Est-ce qu'ils ont une importance? Ils ont joué combien de notes? Je sais pas, j'ai pas compté les notes, je serais même pas capable, là, mais mettons qu'ils ont joué 100 notes sur les 4000 notes qui ont été jouées. Est-ce qu'ils servent à quelque chose, ces gens-là? Je veux dire, s'ils n'avaient pas joué leur partition, est-ce que le chef d'orchestre aurait été comme « Oh, bravo! » Pense pas! Il y avait un rôle à jouer. Et j'étais là, puis moi, j'étais déjà dans mon texte hein, quand j'étais au concert. Fait que t'es là, puis t'as un orchestre, puis tu dis « Ah, c'est ça l'église! C'est ça l'église! » Dernièrement, on était allé à un autre concert, puis à la fin, on aidait à ramasser des choses. Puis là, il y avait les... ring! Non, non, les petites cloches, là. Non, même pas les xylophones, les petites affaires qui pendent, là. Carillon, merci. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était super beau. Puis mon fils, il a fait de la musique. Fait que là, je dis à Bastien, je dis, c'est tellement beau, hein? Ouais, mais quand t'as déjà joué, c'est un peu insignifiant. T'sais. Tu peux comme pas mal jouer de cet instrument-là. T'sais. Tu peux pas manquer ton coup, à part si tu l'as vraiment fait comme au mauvais moment. T'sais. Fait qu'il y a un instrument qui sonne super bien, puis il faut vraiment pas être compétent pour en jouer. OK, c'est cool. C'est celui-là qui sonne peut-être à mes oreilles, à moi, le plus limpide, un son. Wow. C'est génial. J'ai l'impression d'être au ciel quand j'entends ça qui apparaît dans une pièce, c'est pompeux. Puis, je suis parti au ciel. Zéro compétence, mais c'est pas grave, tu sais. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. On est tous différents, avec des dons différents. Et cette diversité-là est voulue de Dieu. Est voulue de Dieu parce que lorsque tous ces instruments-là se mettent à jouer ensemble, ah, le son, par exemple. Je connais pas tellement le classique, fait que c'était l'époque romantique, puis je dis à Esther, honnêtement, tous les mouvements, pour moi, je peux juste dire que c'était tout beau. Tu sais, je suis même pas capable de dire c'est quoi qui s'est passé, je comprends à peu près rien là-dedans, mais moi, de la musique contemporaine ou du jazz, ça va aller, mais ça, là, c'est juste comme beau, mais tout le long, j'étais au ciel, c'était correct, tout le long, j'étais au ciel, c'était bon. Ça me va aussi. Et c'est Christ qui a voulu cette diversité-là, Éphésiens 4, 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est Jésus qui donne. Jésus sauve. L'Église est composée et créée par l'Évangile. Donc, Jésus te sauve. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne. J'ai pas le temps de développer le passage. J'ai mis une petite vidéo sur Facebook pour expliquer un peu, mais ce passage-là qui a l'air un peu étrange. Christ a amené des captifs, puis il a fait des dons aux hommes. C'est une allusion au psaume 68. C'est vraiment juste l'idée que Jésus vient sur la terre, rachète des hommes. On est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu nous donne des dons pour servir, puis il nous donne à l'Église pour servir. Et puis il fait différents dons. Alors, un petit peu plus loin, au verset 11, il va développer. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Donc, admettons, moi, je suis pasteur. Si ma vision de mon appel, c'est que Dieu m'a donné le don d'être pasteur, j'ai pas compris ça. Christ m'a donné le salut. Il m'a sauvé. D'accord? Puis après ça, il m'a donné à son corps. Les dons que Dieu nous donne sont jamais là pour que je puisse définir ma valeur. Je peux pas dire comme, faut que je trouve ma place dans l'Église. Une fois que je vais retrouver ma place, je vais sentir que je joue mon rôle puis c'est important. C'est correct dans un sens, mais puis tu sais, c'est parce que j'ai l'impression comme que je ne sers pas grand-chose dans l'Église. Puis les dons que Dieu nous donne ne servent jamais à établir notre valeur. C'est comme ça qu'on pensait, lorsqu'on pensait selon le train de ce monde, la pensée du monde, que ma carrière, c'est ça qui établit ma valeur. Ma valeur est établie dans le fait que Dieu m'a aimé et m'a choisi en Jésus-Christ. Après, les dons qu'il me donne ne sont même pas pour moi. Ils ne doivent certainement pas servir à bâtir mon ego, mon estime personnelle. Ah, je suis en train de refaire mon estime, je suis en train de servir Dieu sort de moi. Wow, c'est génial! Non, ton estime est toute là dans le fait que tu as été aimé du Père en vertu de la grâce. Embarque pas là-dedans, mon homme, parce que des fois, tu vas être tellement poche dans ton service que là, ton estime va faire ça. Puis, tu sais, non. Ton estime est dans le fait que le Père t'a aimé, puis ça s'arrête là. Et donc, Dieu donne des gens qui sont là pour équiper l'Église. Ici, les apôtres, les prophètes, il faut retourner dans Éphésiens 2 pour aller voir. Je crois que c'était vraiment dans ce cas-là. Les prophètes ici, contrairement à 1 Corinthiens, c'est différent. Dans ce cas-là, c'est ceux qui ont déposé le fondement, c'est ce qu'il nous dit dans Éphésiens 2. Donc, les apôtres, témoins oculaires, racontent les histoires. Les prophètes sont là pour enseigner le temps qu'on établit le Nouveau Testament. Je ne peux pas vraiment développer ça davantage, mais pour ceux qui se posent la question. Et là où je veux attirer votre attention, c'est à ceci. Versets 11 et 12, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il y a un terme qu'on utilise au Québec, puis qui est utilisé un peu partout dans le monde, pour désigner des pasteurs, je dirais à l'extérieur des églises, comment on nous appelle, des ministres du culte. C'est vraiment très, très mal comprendre l'Église. Parce que ce que Paul nous dit ici, c'est que si vous êtes chrétien, c'est, si vous avez rêvé d'aller en politique et être ministre, là, vous êtes tous des ministres, OK? Mais pas dans le même sens. Mon rôle à moi, le rôle des pasteurs, c'est d'équiper. Le perfectionnement, c'est l'équipement. Équiper les chrétiens à faire le travail du ministère. Le travail du diaconat, c'est vraiment ça qu'il y a là. Le ergo, ergonomie, c'est ça qui est là. Travail, l'œuvre du ministère, le diaconat, le service. Et donc, notre rôle à nous, c'est pas de faire l'œuvre du ministère. Si dans votre compréhension, le ministère, c'est juste ce qui se passe ici, on est dans le trouble, les amis. On est vraiment dans le trouble. Parce qu'on est en train de retomber dans une religion qu'on a déjà connue, qui disait qu'il y avait un monsieur en avant qui avait le Saint-Esprit, puis les autres l'avaient peut-être, mais pas vraiment. Vous me suivez? C'est pas vrai, ça. C'est vous qui êtes là pour faire l'œuvre du ministère. Nous, on est là pour vous équiper, pour vous préparer, vous perfectionner pour l'œuvre du ministère. Alors, qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire dans l'édification du corps? T'impliquer dans un ministère particulier, peut-être pas dans un ministère officiel. Pas besoin d'un ministère officiel pour être en train d'édifier le corps. T'es quelqu'un qui voit des gens qui vont pas bien. T'as une sensibilité, tu vois des choses, t'annonces l'Évangile à des collègues de travail, puis tu les amènes progressivement à être en contact avec l'Église. T'es quelqu'un qui sait écouter les gens. Dieu t'a donné une facilité à voir les besoins, puis on n'a même pas besoin de le demander, tu te lèves, tu pars, tu sers, t'es en train d'aider. T'entends qu'il y a quelqu'un qui déménage, il est mal pris, poup, t'es là-bas, t'es en train de servir. Il y a toutes sortes de manières. T'es quelqu'un qui reste chez toi, mais tu portes dans ton cœur les fardeaux de l'Église. Les fardeaux les uns des autres, tu les portes dans la prière, t'es un intercesseur. T'es plein de choses comme ça. Et donc, si t'es là puis tu te dis, ouais, mais c'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que moi je suis appelé à faire? Où est-ce que je vais servir dans l'Église? Comment est-ce que je vais servir dans l'Église? Puis c'est quoi ma place à moi? Honnêtement, c'est tellement, tellement, tellement secondaire comme question. Tu es dans l'Église, rouvre tes yeux, puis sers. Excusez-le. Tu es dans l'Église, tu vois des besoins, fais juste ouvrir tes yeux, fais juste tendre les oreilles, puis sers. Puis au fur et à mesure que tu vas servir, l'Église va te le dire. Il me semble que je te verrais aller servir là. Tu veux-tu essayer ça? On a un cours peut-être pour t'aider. Il y a quelqu'un qui pourrait te coacher à faire ça, qui pourrait t'aider à faire ça. Peut-être que c'est pas dans les rassemblements de l'Église, peut-être que c'est dans les petits groupes. Peut-être que c'est au travail que tu es en train de briller pour l'Évangile, puis tu annonces le Seigneur, puis tu invites des collègues de travail à souper chez vous, puis tu invites des chrétiens de l'Église, puis tu fais connecter ce monde-là ensemble. Puis c'est pas tellement important. Parce que ta valeur ne dépend pas de ton service dans l'Église. Ta valeur se trouve dans le fait que tu as été aimé par le Père. En vertu de la grâce. Puis après ça, t'es donné à l'Église pour servir le corps de Christ, pour édifier le corps de Christ. C'est le ministère. On a vu ensemble l'unité, le ministère, maintenant la maturité. Maintenant la maturité, puis je termine avec ça ce matin, la maturité. L'objectif, c'est de ressembler à Christ. Le projet, c'est que nous soyons comme lui dans son caractère, dans sa maturité. Regardez verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire des hommes et des femmes matures, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, tout ce que nous faisons comme Église, dans nos rapports les uns avec les autres, vise à se faire grandir, à s'aider les uns les autres, à grandir pour ressembler à Jésus-Christ. C'est toujours ça qu'on fait. Si quelqu'un n'est pas au Seigneur, on veut qu'il connaisse Christ. Si quelqu'un est au Seigneur, il est chrétien, on veut qu'il connaisse Christ. On veut que Christ soit formé en lui, les vertus, les qualités de Christ, la douceur, la patience, mais aussi le discernement, l'intelligence, afin de discerner des faux enseignements. Puis, il y a une grande partie de cette édification-là, qu'on pourrait résumer comme ceci. Si vous voulez être concret, comment on fait ça? c'est par des conversations spirituelles. Il y a une grande, grande partie de l'édification que tu apportes au corps de Christ. C'est vrai, il y a le service. Peut-être que Dieu t'a donné pour donner de l'argent, pour pourvoir, plein de choses, aider, faire des repas, c'est vrai. Mais une grande partie de l'édification du corps de Christ, de la croissance, vient de conversations spirituelles qu'on a ensemble. Regardez bien dans le passage qu'est-ce qui est écrit au verset 15. « Mais en professant, ça veut dire en déclarant, en disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. » De quoi est-ce que Paul veut nous protéger au verset 14? « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. On va avoir un discernement nouveau qui va nous être donné. » Rappelez-vous, au chapitre 2, Paul nous avait dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. » Dieu nous a rachetés de ça, puis maintenant, il est en train de nous édifier. Et à travers nos conversations spirituelles, on est appelé à s'édifier les uns les autres dans la vérité et dans l'amour. C'est ça qu'on veut faire. C'est pour ça que Paul insiste au début sur l'unité qui va se traduire par l'humilité. Ça prend de l'humilité si on veut avoir des conversations ensemble puis dire, « Tu veux-tu, on va regarder les Écritures? Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que tu ailles voir ici. Hey, ça a mal été dans ma semaine, dans ma vie cette semaine, ça a mal été. Il y a tel péché, c'est récurrent, je ne sais pas du tout où je m'en vais. J'ai besoin de savoir que la personne à qui je vais aller me confier peut recevoir ça avec humilité, avec douceur, avec patience, qu'elle va venir m'encourager. » Voyez-vous ces attitudes-là qui sont tellement nécessaires si on veut être capable de s'édifier les uns les autres par des conversations spirituelles. Des fois, ça va être à travers le message le dimanche matin. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train d'avoir ensemble une conversation spirituelle. Mais la majorité du temps, c'est pas ça. Au nombre qu'on est, combien est-ce que vous pensez qu'on a d'échanges dans la semaine entre nous où on prie un pour l'autre, on discute autour de la table, on va prendre un café. Tout à l'heure, en partant, on s'encourage, on se donne un petit coup de fil, on s'envoie un courriel, on s'écrit sur Facebook. Puis on est là, puis on veille, on prend soin, on fait juste s'encourager les uns les autres. Ce sont tous des conversations spirituelles, dans lesquelles on va le faire avec amour, mais on va dire la vérité. C'est pour ça, tout à l'heure, qu'on jugeait utile un livre comme « Côte à côte » de Ed Welch. C'est que ça prend de l'humilité, ça prend de la douceur, de la patience, ça prend aussi une connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir avoir toutes ces conversations-là spirituelles. Des fois, ça va juste être un temps de prière. Veux-tu, on va prier ensemble? Puis dans ma prière, je suis en train de prendre soin de mon frère, de ma soeur dans la foi. En train de prendre soin de lui dans ses épreuves, ses difficultés. Une grande partie de la construction de l'Église se résume concrètement à des conversations spirituelles entre nous. Et c'est Christ qui produit ça au verset 16. « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. » Mardi soir, Esther et moi, on est allés voir un concert. Puis lorsqu'on est allés au concert, on est arrivé un petit peu tard, puis on avait comme des places réservées, mais là, finalement, on était en avant, mais vraiment sur le côté. Puis là, moi, je me disais, je ne pourrais pas entendre tout l'ensemble, je vais fonctionner en mono toute la soirée, tu sais. Mais, Esther, qui est musicienne, pour qui c'était pas du parler en langue, toute cette affaire-là, elle était vraiment contente, parce qu'on était comme en angle avec le chef d'orchestre. Puis Philippe était là, puis on le voyait diriger. Et puis à la fin, je parlais avec Esther, je disais, c'était vraiment, vraiment fascinant de le regarder diriger. Puis elle me dit, écoute, il connaissait presque toute la pièce par cœur. Par cœur. Il la maîtrise plus que tout le monde. Puis là, vous savez, la réflexion qui m'est venue, c'est, ouais, mais c'est le seul qu'on n'entend jamais. C'est vrai, on ne l'entend jamais. Et c'est la réalité de l'Église actuellement. Un jour, notre chef d'orchestre va se mettre à chanter. Quand on va le voir face à face, il va partir sur un solo, mes amis, ça va être magnifique. Mais pour l'instant, les voix par lesquelles il s'exprime, c'est l'Église. Et donc, ce chef d'orchestre-là, tu ne l'entends jamais, mais pourtant, tout dépend de lui. S'il y a quelqu'un dans l'ensemble qui est là, vocal ou les instruments, qui ne garde pas les yeux sur lui, mes amis, ça va partir dans n'importe quelle direction. C'est pourquoi Paul nous dit, c'est en lui que nous croissons. On grandit dans la mesure où on garde les yeux fixés sur lui, pas les uns sur les autres. Mes deux joueurs de corps, il fallait qu'ils gardent les yeux fixés sur le chef d'orchestre parce que je pense qu'ils seraient partis, moi. Puis s'ils s'étaient regardés toutes les deux, tu sais, à un moment donné, ça aurait été comme... C'est long, hein? Mais non, il fallait qu'ils regardent le chef d'orchestre et c'est ça qu'on est appelé à faire. On est appelé à garder les yeux fixés sur Christ. Et ça demande quelque chose pour faire partie d'un orchestre comme cela. Il faut que tu puisses voir le chef. Si tu es mal placé... Puis que tu n'es pas capable de voir le chef, tu ne fais pas partie de l'orchestre. Et je ne sais pas si toi, tu vois Jésus-Christ, le chef d'orchestre. Peut-être que ce n'est pas ton chef d'orchestre. Peut-être que toi, tu sais, tu te dis, regarde, c'est super beau là, ton affaire, Yannick, mais moi, ce n'est pas de même que ça marche. Moi, je n'ai pas de chef d'orchestre. Moi, je suis sur un stage, j'ai ma guitare, je suis tout seul, pas d'orchestre, solo! Ça peut être bon, tu sais. Il y a quelques pièces que tu peux voir qui sont vraiment comme bien, mais honnêtement... Peut-être que tu as une belle voix. Un orchestre. Ça, c'est quelque chose. C'est symphonique, c'est merveilleux, c'est grandiose. Et lorsqu'on devient chrétien, Dieu nous joint à une orchestre. On a chacun une partition à jouer. On est en train de l'apprendre ensemble. Ça demande de la patience. Puis au début, avant que ça joue, tu les entends, puis c'est cacophonique cette affaire-là. Mais à partir du moment où le chef d'orchestre apparaît, il attire l'attention de tout le monde. Tout le monde fixe les yeux sur lui. Puis on commence. La mélodie peut commencer à jouer. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est le projet que Dieu a. L'Église est créée par l'Évangile, par la grâce. Et ensuite de ça, tous les gens qui sont sauvés par la grâce s'édifient ensemble les uns les autres, selon nos dons, nos capacités chacun. Par des conversations spirituelles, par un service mutuel. Puis tranquillement, on est en train de grandir chacun d'entre nous à la ressemblance de Jésus-Christ. Est-ce que c'est pas beau, l'Église? J'aimerais ça inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Une Église, c'est une œuvre de grâce de Dieu. J'aurais pu faire tout un message sur le fait qu'une Église, ça tient debout juste par la grâce. L'Église, c'est créé par la grâce de Dieu, mais en tout cas, si tu es pasteur, tu sais que ça tient juste debout par la grâce de Dieu aussi. Et donc, on doit garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ, sur la personne de Christ. C'est pour ça qu'on prêche, puis on enseigne, puis on dit, soyons centrés sur l'Évangile, sur l'œuvre de Jésus-Christ. Fixons les yeux sur lui. Ce matin, on va célébrer, on va chanter ensemble la gloire de Dieu, on va chanter des louanges et on veut simplement dire à Christ combien il est merveilleux et combien on est privilégié de faire partie de cette œuvre-là grandiose qui est en train de créer tous ces poèmes. Vous vous rappelez, dans Éphésiens 2, tous ces poèmes, ces ouvrages qu'il est en train de faire, qu'il est en train d'orchestrer ensemble. Dans quelques instants, on va entendre le témoignage de Carmen, on va voir son baptême. Ma petite sœur Carmen, que le Seigneur est allé chercher, puis l'a joint au corps comme ça. Et Dieu sait qu'elle a toute sa place ici. Si toi, personnellement, pour l'instant, tu es encore solo guitare, tout seul sur ton stage, bring, bring. Peut-être que Dieu est en train de te parler ce matin, puis il est en train de t'appeler à te joindre à l'orchestre, à son orchestre, et à venir te placer sous sa direction. Il y a toute la place pour apprendre dans cet orchestre-là parce que la seule qualification pour entrer, c'est d'être vraiment mauvais musicien. C'est vraiment d'être très mauvais pour rentrer dans cet orchestre-là. Notre chef d'orchestre cherche les pommes les plus pourrites puis il dit « Ah, c'est avec ça que je vais faire une symphonie. » Puis après ça, il nous couvre de sa grâce, de son pardon. Puis il dit « OK, maintenant on va commencer à jouer de la musique ensemble. » Je vous invite à écouter le témoignage tout à l'heure, à considérer l'appel de Dieu sur vos vies. On va prier ensemble. Père éternel, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour l'Évangile, Seigneur. C'est toi qui nous sauves. C'est toi qui nous équipe. C'est toi qui te sers de nous, Seigneur. On est, On est confondu au jour de notre conversion par ton amour et ta grâce. On est confondu chaque jour de notre service par ton amour et ta grâce. Et quelques années plus tard, on est confondu par le fait que tu nous as gardés dans tes voies, Seigneur, pas par nos propres forces. Mais Seigneur, fort de cette identité que nous avons en toi, comme Église, nous voulons nous édifier. Chacun d'entre nous, on veut jouer un rôle plus ou moins grand, tous différents, Seigneur, et célébrer cette diversité en ayant ces conversations spirituelles ensemble, empreintes d'humilité, de patience, de douceur, afin d'être transformés de plus en plus à ton image, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour tes bontés. Amen.